Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons vu que l'ancienne alliance ne pouvait pas atteindre le but pour lequel elle avait été établie, car elle avait une faille, en ce sens que le peuple ne pouvait pas s'y soumettre par sa seule volonté uniquement, c'est-à-dire sans l'aide du Saint-Esprit qui ne lui avait pas été promis. C'est intentionnellement que Dieu a établi la première alliance telle qu'elle était, afin de démontrer que l'homme ne peut accomplir par sa seule force ce pourquoi il a été appelé. Paul confirme la promesse d'une nouvelle alliance. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Que signifie cette expression « après ces jours-là » Le prophète Joël donne la réponse. « Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Le jour de l'Éternel est ce que l'apôtre Pierre appelle le jour du Seigneur. C'est l'époque au cours de laquelle le Christ revient avec grande colère pour punir les nations et, après cette époque, quand les gens se seront repentis, Dieu répandra son esprit sur eux. De nos jours, cette nouvelle alliance est conclue avec ceux qui désirent se soumettre humblement à Dieu, voulant lui obéir en vivant dans l'observance des commandements et des lois. Elle n'est nullement conclue avec ceux qui les rejettent et vivent ainsi dans le péché, puisque le péché est la transgression de la loi divine. Ils considèrent que la loi est abolie, alors que le Christ affirme tout le contraire dans le sermon sur la montagne. La nouvelle alliance ne sera-t-elle conclue qu'avec Israël? Paul écrit, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Une personne, quelle que soit sa race, sa nationalité, sa couleur, si elle se repent et vit en conformité avec les lois et les commandements, pourra conclure alliance avec Dieu et recevoir l'Esprit de Dieu. Ce n'est qu'ainsi qu'elle sera à Christ et que Christ vivra sa vie en elle. Vous pouvez facilement comprendre que notre Sauveur, qui a toujours observé les commandements de son Père, ne peut pas vivre en quelqu'un qui vit dans le rejet des lois, une loi dont le Christ a affirmé qu'il n'en disparaîtrait pas un seul iota ou un seul trait de lettre. Lisons la suite de ce que Paul écrit dans sa lettre aux Hébreux. En disant « une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Remarquez que ce qui est prêt de disparaître n'est nullement la loi, c'est l'ancienne alliance uniquement. De la loi, il ne peut rien disparaître, comme le Christ l'a affirmé. Quant à la nouvelle alliance, elle sera établie à jamais, après le retour du Christ, pour tous ceux qui vivront en conformité avec les lois que Dieu mettra dans leur esprit et qu'il écrira également dans leur cœur. Paul ajoute, « La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte, au sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Il y a des gens qui rejettent ce passage des Écritures, sous prétexte qu'elle est appelée la loi de Moïse, bien qu'elle vienne de Dieu, mais par l'intermédiaire de Moïse. Celui-ci n'est pas le législateur, c'est Dieu qui l'est, et à part les sacrifices et les rituels du temple, Jésus-Christ, notre Sauveur, n'a rien aboli. Il dit que l'homme doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et cela comprend aussi l'Ancien Testament. N'oubliez pas ce que Paul a écrit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce n'est qu'en étudiant toute la Bible, et en assemblant tous les passages qui traitent d'un même sujet, qu'il est possible de bien comprendre ce que le Christ accomplit aujourd'hui, sans oublier ce que Dieu demande à chaque chrétien. Mais il y a tant de personnes qui s'imaginent être chrétiennes sans même savoir ce que le véritable chrétien doit être aux yeux de Dieu pour lui être agréable en toutes choses. Paul poursuit. Le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, et l'Arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'Arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'Arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Le propitiatoire est le trône de Dieu, un trône que le monde ne connaît même pas. Ce n'est pas le moment d'en parler en détail. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Bien entendu, il est possible de découvrir de plus amples détails très importants en lisant le livre de l'Exode. On peut également comprendre l'utilisation de ce que le tabernacle contenait dans le livre du Lévitique ainsi que dans le livre des Nombres. Je voudrais vous faire remarquer que les passages que je vous cite sont négligés par la plupart des chrétiens, cependant, ils sont tirés du Nouveau Testament uniquement. Si vous voulez comprendre tous ces détails si importants et la représentation exacte de tous les objets matériels qui se trouvaient dans le tabernacle, vous devez lire également l'Ancien Testament qui seul peut vous éclairer à ce sujet. Ne perdez pas de vue que le tabernacle fut remplacé par le temple plus tard. Que se passait-il dans la seconde partie du tabernacle? Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Le chemin du lieu très saint mentionné ici, c'est le second compartiment, la deuxième partie ou Saint des Saints. À l'époque de Moïse, ce chemin n'était pas encore ouvert à tous, puisque seul le souverain sacrificateur y avait accès et une fois par an seulement. Il en fut ainsi au cours de toute la période du tabernacle et ensuite du temple. Remarquez, et ceci est très important, que dans toute cette représentation du céleste, il n'existait aucun accès direct vers le Père qui, lui, demeure dans les cieux. C'est une figure pour le temps actuel, c'est donc une représentation pour nous qui vivons aujourd'hui, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Pendant toute cette période, chaque sacrifice n'était qu'un rappel de culpabilité et ne pouvait laver la conscience ou le cœur. Voilà pourquoi David a écrit « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » David voyait donc la loi comme Paul la voyait. Il avait la connaissance de la lettre de la loi, mais aussi celle de l'esprit de la loi. David avait le Saint-Esprit en lui, comme ce fut le privilège des patriarches, des prophètes et de quelques rois. Voilà pourquoi il dit à Dieu « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Cette approche doit être celle du véritable chrétien aujourd'hui, car la loi est éternelle, comme le confirme le psaume 119. Il faut voir dans la loi des sacrifices la mort de l'animal sacrifié, mais aussi la préfiguration de la mort de Jésus-Christ, qui s'est sacrifié volontairement pour tous. Il faut aussi y voir la mort de notre propre volonté qui s'oppose si souvent à la volonté de Dieu. Chers auditeurs, vous tous qui m'écoutez régulièrement, je demande maintenant toute votre attention car je vais aborder un point très important. Si le repentir de celui ou de celle qui se rend coupable d'une transgression de la loi, donc d'un péché, si son repentir n'est pas sincère, alors il est inutile et vain de s'approcher de Dieu par une prière, car nous devons nous approcher de l'autel qui est dans les cieux d'une manière convenable, c'est-à-dire avec contrition. Je répète, car ceci est extrêmement important. Si le repentir de celui qui pèche n'est pas réel et profond, chaque fois qu'il se rend coupable d'une transgression, cela ne sert à rien de s'approcher de Dieu et de lui adresser une prière. Dieu ne pourra pas écouter cette prière. Le prophète Ésaïe a écrit, « Ce sont vos crimes, autrement dit vos iniquités, vos injustices, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ensuite, Paul énumère une série d'ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Ce sont les offrandes, les sacrifices, les aliments, les boissons décrits dans les premiers chapitres du Lévitique. Toutes choses qui avaient été données plus tard à cause des transgressions et qui devaient subsister jusqu'au sacrifice suprême du Christ. L'époque de réformation, dont il est question ici, est celle qui a débuté lorsque le Christ est mort sur le bois. Il faut savoir que ce qui était pratiqué avant était destiné à attirer l'attention sur le sacrifice ultime de notre Sauveur. Paul ajoute, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. » Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le Christ est venu en tant que souverain sacrificateur des biens à venir, pour un tabernacle plus grand et plus parfait, un tabernacle céleste, établi par Dieu le Père lui-même. Il est entré dans le lieu très saint, afin que son sacrifice soit agréé par son Père. Paul poursuit, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont situés sanctifient et procurent la pureté de la chair, que veut-il dire par là ?» Eh bien, Paul nous fait comprendre que par le sacrifice physique, d'animaux physiques, le peuple recevait le pardon et pouvait alors entrer dans le tabernacle physique, qui, à l'époque de Salomon, devint un temple physique. Combien plus le sang, poursuit Paul, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Malheureusement, les gens qui se disent chrétiens ne veulent plus s'embarrasser d'une loi, quelle qu'elle soit. Ils ne considèrent valable que ce qui leur convient et leur plaît. Servir le Dieu vivant, c'est lui obéir, c'est se soumettre à lui, mais aussi à son gouvernement et à ses lois. En s'offrant lui-même, le Christ attire l'attention de l'homme sur sa propre responsabilité, pour autant qu'il se laisse guider par le Saint-Esprit. C'est cette puissance de Dieu qui influence, qui pousse et qui aide le véritable chrétien à vivre comme le Christ a vécu. Paul ajoute, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. La terre, voilà ce qui était promis lors de la première alliance, tandis que la nouvelle alliance contient une promesse de vie éternelle. Lorsque les gens s'écartent de la loi, ils s'écartent du tabernacle et ils croient qu'ils iront au ciel. Ils ne comprennent pas l'alliance, ni sa promesse, et beaucoup s'imaginent qu'ils resteront éternellement au pied de Dieu comme un chien fidèle au pied de son maître. En fait, et c'est bien malheureux, le but de la vie humaine, la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, reste inconnu pour beaucoup.